三のまんまエコノミック。
Bienvenue, messieurs, dames, à la rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur Radio Okapi. Au menu de Panorama économique cette semaine, les gestionnaires des entreprises de l'État transformées en sociétés commerciales, sensibilisées à la culture du résultat et à la bonne gouvernance. C'était cette semaine le tour des cadres de la Société nationale d'électricité. Quelques résolutions de la 11e réunion du comité de politique monétaire de la Banque centrale. Le gouvernement de la République doit poursuivre l'exécution des opérations financières de l'État suivant le plan de trésorerie du secteur public et modérer ses paiements en devises. La Banque centrale du Congo a par ailleurs annoncé la baisse de 5% de son taux au directeur. Suite de notre dossier sur le secteur du transport aérien en RDC, un secteur entamé depuis les années 78 avec la déchéance de la compagnie d'aviation nationale et qui peine aujourd'hui à se redresser, manque de moyens, manque de projets ou encore manque de volonté. Élément de réponse dans votre magazine qui reçoit Thomas Kubuya. Il est directeur de la Virunga Business Radio. C'est une radio des hommes et des femmes d'affaires émettant depuis Goma dans la province du Nord Kivu. Monsieur Thomas, bonjour et bienvenue à Panorama Économique.
Bonjour Daniel.
Et devant ce micro, Jocelyne Moussa Oponde et Daniel Tampinzoni pour vous présenter Panorama Économique. Jocelyne, bonjour.
Bonjour Daniel.
Panorama Économique, le dossier.
Encore une fois, bienvenue à tous. Après le séminaire du CopyRep à l'intention des parties prenantes dans les entreprises publiques transformées de la semaine dernière et après l'étape de Katanga consacrée au cadre de la GECAMINE et de la SNCC, c'était le tour cette semaine des cadres de la direction de la SNEL à suivre la formation.
La formation clôturée mardi était axée sur le nouveau cadre institutionnel et managérial. Il s'agit de comprendre au mieux les nouveaux défis auxquels l'entreprise sera confrontée dans sa nouvelle configuration, notamment la bonne gouvernance, le droit au ADA et le contrôle interne. L'administrateur délégué de la SNEL a répondu à nos questions à la clôture de cet atelier suivant.
SNEL, entreprise publique, aujourd'hui SNEL, société commerciale, quelles sont les mutations qui sont en train de se produire en interne?
D'abord le changement de mentalité, une nouvelle culture d'entreprise et de gestion, la poursuite de l'excellence, des résultats et finalement la réalisation d'un plus grand profit, la compétitivité sur les marchés nationaux à venir et ainsi sur les marchés sous-régionaux, parce que vous savez, nous sommes membres des poules énergétiques et donc des marchés d'électricité et nous sommes appelés à devenir plus compétitifs avec beaucoup plus de compétences, beaucoup plus de résultats.
Mais est-ce que ce genre de formation est vraiment ce qui est suffisant pour rendre la SNEL plus compétitive?
La formation, c'est un outil. Vous savez, même quand vous avez la vision et que vous devez la transmettre aux autres, ça suppose que vous devez avoir un langage, des méthodes pour que les mêmes personnes arrivent à percevoir la vision. Et puisqu'on ne doit pas, fabriquer, inventer la roue, si la roue existe ailleurs, donc le fait simplement d'avoir l'information, c'est déjà un acquis pour vous. Je crois que la première richesse de SNEL restera les ressources humaines. SNEL, c'est un réservoir de plusieurs compétences techniques, financières, disons économiques et dans tous les domaines. Donc ça, c'est un acquis. Et nous disons donc à la population congolaise que réellement, SNEL, c'est une richesse des compétences. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un appel à cette compétence de se mettre au travail dans le nouveau cadre. Et nous croyons que la population ne devait pas trop s'inquiéter, qu'elle devait plutôt être patiente et attendre le résultat.
Et je vous le disais, Panorama Économique reçoit Thomas Kubuya. Il est directeur d'une radio émettant à Goma dans le Nord Kivu, de passage à Kinshasa. C'était l'opportunité aussi pour Panorama Économique de le recevoir et analyser l'actualité de la semaine. Monsieur Thomas, vous avez suivi cet élément sur la SNEL, des formations en formation, renforcement de capacités. Si je peux revenir sur cette question d'Agathe, est-ce que c'est une formation qui va mettre à niveau ces cadres?
Disons que les formations sont très utiles, mais il faut savoir à qui elles étaient destinées. Si c'est seulement au cadre, est-ce qu'on va s'attendre à des bons résultats au niveau des travailleurs ordinaires qui sont en contact tous les jours avec la population, donc avec les consommateurs de l'énergie électrique.
Le poisson pourri, toujours par la tête, il faut commencer par la tête, peut-être pour prévenir.
Peut-être oui. Bon, je pense que c'est bien, et c'est le moment, en fait, que ces entreprises comprennent qu'elles sont devenues maintenant commerciales, qu'elles doivent cesser d'être ces entreprises policières que nous connaissons depuis toujours. Imaginez qu'à la cité, quand on voit un agent de la SNEL venir, il a ses pinces pour couper l'électricité. Donc finalement, une bonne gestion correcte des ressources humaines, une bonne gestion managériale, donc en termes de ressources humaines, de services commerciaux, de finances, en termes de clientèle, qu'ils sachent plus ou moins aujourd'hui comment se comporter. J'étais très content qu'ils disent, dans le directeur, qu'ils disent que il faut que la SNEL devienne compétitive, d'abord au niveau interne. Parce que, comme il le dit, peut-être que l'électricité, disons, le secteur va être libéralisé. Donc, la SNEL n'aura plus les monopoles. Et ensuite, au niveau régional, parce que quand on se compare avec d'autres pays qui nous entourent, on a honte à un certain moment. Moi qui vis à Goma, je vois qu'à Gisenyi, le courant part très difficilement et très rarement. Alors, c'est un peu compliqué. Il faudrait qu'au niveau de notre pays, c'est vrai, qu'on soit compétitif, qu'on produise correctement et qu'on commercialise et qu'à la fin, on devienne correct.
Monsieur Thomas, vous avez parlé de Goma, vous avez comparé la situation de l'énergie électrique à Goma et à Gisenyi, au Rwanda voisin. Bon, nous voulons un peu parler de la compétitivité de la SNEL. Cette compétitivité, nous supposons qu'elle passe par la sécurité sur les réseaux. Je donne l'exemple de Kinshasa, c'est tout le monde qui a accès au réseau, c'est tout le monde qui réhabilite le courant, c'est tout le monde qui coupe un quartier. Comment ça se passe un peu à Goma? Est-ce que dans les quartiers aussi, un jeune garçon qui a fait l'électricité a aussi accès au réseau de la SNEL comme il en est le cas ici à Kinshasa aujourd'hui?
Écoutez, à Goma, comme à Bukavu, il y a un terme qu'on utilise. Koudaoula, les daoulages. C'est un peu comme nos mamans qui vont chez les voisins prendre deux, trois braises pour allumer son baboula à côté. Donc, c'est finalement ce qui se fait partout. Ici, comme à l'Est, donc comme à Goma, à Bukavu, on se sert de l'électricité, on va réparer soi-même, on tripote dans les cabines. C'est vrai, la sécurité au niveau du réseau est très importante. Quand on voit l'état du réseau actuel, on se demande si on doit encore dire qu'on a une société d'électricité organisée sur les plans techniques. Nos cabines n'ont plus de fusibles, les câbles sont pourris partout, c'est des morceaux racolés par-ci par-là, c'est un danger permanent d'ailleurs. Et par exemple, il est difficile à Goma en tout cas d'avoir le 220 volts.
Et la régularisation, est-ce que la clientèle paye normalement sa facture?
Alors, il y a un phénomène qu'on ne comprend pas. À Goma, il faut dire que si la ville est couverte, c'est à peu près à 5 ou à 6%. Et là où il y a un peu ce réseau électrique de la SNEL, vers la fin du mois, on a un peu d'électricité autour de minuit, 2h, et qui repart vers 4h.
Et la facture
tombe, et c'est une facture bien salée. Alors, d'un coup, on se demande, est-ce qu'on paye pour un service rendu? Non. Malheureusement. Donc, je pense qu'à un certain niveau, les formations, c'est bien, mais aussi, il faut revoir le réseau et renforcer la production au niveau de la SNEL, la distribution et la bonne commercialisation.
Deuxième dossier de la semaine, le gouvernement de la République doit poursuivre l'exécution des opérations financières de l'État suivant le plan de trésorerie du secteur privé et surtout modérer ses paiements en devises.
C'est l'une des recommandations du comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo réunie mercredi à Kinshasa. À l'issue de cette rencontre, la BCC a également annoncé la baisse de 5% de son taux directeur. Reportage.
Le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo fait cette recommandation au regard des menaces de ralentissement qui continuent de peser sur l'économie mondiale, menaces alimentées par la dette souveraine des États de l'Union européenne. Analysant ensuite la conjoncture congolaise sur ces différents axes, le comité de politique monétaire de la Banque centrale annonce enregistrer une baisse de l'inflation, une stabilité du taux de change, 921 francs congolais sur le marché officiel et 927 7 francs congolais sur le marché parallèle pour le dollar américain. Pour toute l'année 2011, a indiqué le gouverneur de la Banque centrale du Congo et président du CPM, le franc congolais n'a perdu que 0,65% de sa valeur à l'indicatif. Fort de tous ces éléments et surtout de l'embellie du prix des produits pétroliers et alimentaires à l'international, le CPM a décidé de réduire le taux directeur de la Banque centrale du Congo. Il passe de 29,5% à 24,5%, soit une baisse de 5%. Le comité de politique monétaire demande également à la Banque centrale du Congo de continuer à intervenir sur le marché en vue de rendre plus souples les fluctuations du taux de change. Retour dans ce studio de Panorama économique. La Banque centrale doit continuer à intervenir sur le marché pour maintenir les fluctuations du taux de change. La Banque centrale demande au gouvernement de continuer à exécuter le plan de trésorerie, c'est-à-dire la prudence, la règle n'a pas changé. Continuer à dépenser sur base caisse. Vous avez 50 000 francs congolais. Dépenser 50 000 francs, n'allez pas au-delà. C'est ce que la Banque centrale demande au gouvernement de faire, monsieur Thomas.
Je pense que la Banque centrale est bien placée pour prodiguer ses conseils au gouvernement. C'est elle qui suit l'évolution de la situation monétaire au pays et à l'extérieur. Mais ce que moi je constate dans ce pays, c'est que bon, malheureusement notre économie est fort dollarisée.
Voilà.
Elle est dollarisée. Il suffit de sortir de nos frontières pour vous en rendre compte. Allez à Brazzaville, le dollar ne vous dit rien. Allez au Rwanda, le dollar ne vous dira rien. À Nairobi, à Addis Abeba, vous pouvez même crever de faim avec votre dollar en poche. Et d'un coup, je me dis, tout ça est bien beau, mais est-ce qu'on a remis à la monnaie nationale sa place dans les transactions de tous les jours? Donc je me dis, c'est bien de donner ces conseils-là, mais il faudrait aussi qu'au niveau de la Banque centrale, on encourage les transactions en monnaie nationale pour essayer de nous sécuriser davantage.
La banque aussi se félicite pour la période de sous-examen, quoi. Donc, le taux de change est resté stable, 921 au niveau de la Banque centrale, mais sur le marché parallèle, c'était 927 pour le dollar américain. Vous venez de Goma, à l'Est, c'est quoi? À quoi il ressemble le taux, la parité franc-congolais-dollar?
Ben, on est à 900. Quand je partais de là, on était à 900 francs congolais pour un dollar. À la vente et à l'achat à 950. Je pense que de ce côté-là, la Banque centrale a quand même fourni des gros efforts. Ça fait quand même plus d'une année, je pense, qu'on est à 900, que ça n'a pas bougé, ça ne bouge pas trop. On n'était pas habitué à cela dans ce pays.
Mais ce qui est curieux, que le taux de change est resté le même, mais sur le marché,
c'est le prix des biens augmente.
Oui. Ben écoutez, les prix augmentent, nous devons comprendre notre pays. Nous vivons de l'importation, en majorité. Imaginez Kinshasa. Si on demandait à toutes ces entreprises qui importent le chinchard, si on demandait à tous ceux qui nous importent les croupions, les mikila et autres, de ne rien importer, comment est-ce qu'on pourrait vivre à Kinshasa? Nous n'avons des fermes que des noms. En plus, au niveau des transactions à l'importation, nous sommes l'un des pays les plus chers. Donc imaginez que toutes les taxes à l'importation qu'on paye rentrent. Malheureusement, ça répercute sur le prix.
Ouais. Le dernier dossier de la semaine, pour parler du transport aérien au Congo. Nous le disions, le déficit de ce secteur date d'il y a longtemps, mais seulement qu'il est exacerbé aujourd'hui par l'absence d'une compagnie nationale digne de ce nom après la descente aux enfers de Air Zaïre d'antan, Jocelyne.
La situation de quasi-monopole de transport sur les grands axes aériens de la RDC ne laisse personne indifférente. Tout le monde appelle de vive voix la résurrection de la compagnie nationale rébaptisée LAC. Cependant, ceci ne semble pas être inscrit dans l'agenda des décideurs. Suivons plutôt un extrait de cette interview avec Chérubin Okenge, DGAI des lignes aériennes congolaises.
Pour la première fois dans l'histoire de notre compagnie, sur fonds propres, avec les efforts du personnel, nous avons pu acquérir en fonds propres donc un Boeing 737 en 2009. Et ce Boeing 737 est dans notre hangar ici.
Et qui ne vole pas.
Voilà. Pourquoi ils ne volent pas? Premièrement, par des difficultés de conjoncture, le fonds de roulement, donc le carburant que nous sommes obligés d'acheter au comptant, parce que n'ayant plus de contrat avec des pétroliers, mais aussi notre pays, j'ai toujours déploré certaines variables complexes qui ne se justifieraient pas. Normalement, aujourd'hui, je ne sais pas comprendre que la compagnie aérienne nationale ait sollicité le renouvellement de son certificat de navigabilité auprès de l'autorité de l'aviation civile, un document, pendant que techniquement il est prouvé que l'avion est très bon, que nous ayons passé plus de 7, 8, 9 mois sans avoir le renouvellement du certificat de navigabilité. Et chaque fois que nous approchons les responsables de l'autorité de l'aviation civile, ceux qui ont la charge du dossier allèguent le manque de temps parce qu'ils sont occupés par d'autres dossiers, l'on ne peut plus, très important que l'exploitation de la compagnie aérienne nationale. Ma foi, là, ça me dépasse, je me dis, il n'y a pas de volonté d'aider la compagnie aérienne nationale de travailler au service du peuple congolais.
Même plainte du côté des responsables du projet Korongo, alors que tout serait fin prêt pour lancer la compagnie. Christophe Allard le dit au micro de Innocent Olenga.
J'ai déjà eu l'occasion sur vos ondes de faire part, je dirais, de l'état d'avancement de notre dossier, où on se posait déjà certaines questions concernant les dernières autorisations attendues. Et quelques mois plus tard, nous faisons le constat que malheureusement ces autorisations n'ont toujours pas été octroyées, alors que Korongo a répondu à tous les prescrits réglementaires, qu'ils soient congolais, européens ou internationaux. Nous avons d'ailleurs fin août finalisé un audit conjoint qui était tenu par les autorités belges et congolaises, et qui, dans sa conclusion, démontre bien qu'il n'y a plus aucune entrave au démarrage de notre compagnie. Les autorités congolaises s'étaient d'ailleurs engagées sur base de ce rapport à octroyer dans les heures qui suivaient les dernières autorisations attendues concernant l'importation de nos aéronefs et l'acceptation de notre programme d'exploitation. Malheureusement, deux mois plus tard, nous constatons qu'il n'y a toujours pas, d'agrément et que nous n'avons toujours pas pu faire venir les premiers avions nous permettant de démarrer l'exploitation, ce qui pose beaucoup de questions, certainement au vu du démarrage de nouvelles compagnies, de nouveaux venus, ce qui nous laisserait penser qu'il y aurait deux poids, deux mesures ici en RDC.
Mais finalement, qui doit délivrer ces documents?
Mais écoutez, c'est l'autorité de l'aviation civile qui remet un rapport technique qui en fait part au ministère des Transports pour décision quant à l'importation des aéronefs.
Oui, mais d'après vous, les blocages, c'est quoi? Ça bloque où?
Mais c'est très difficile à dire. Je pense que si je connaissais la réponse, on aurait des moyens pour agir et saisir les personnes qui sont censées décider.
Panorama économique sur Radio Okapi. Nous recevons Thomas Okubuya, il est directeur de Virunga Business Radio, une radio émettant depuis Goma dans la province du Nord Kivu. Il analyse et commente l'actualité de la semaine avec nous. Le secteur aérien congolais, vous avez pris un avion de Goma à Kinshasa. Comment ça s'est passé?
C'est la voie obligée. On peut pas quitter Goma jusqu'à Kinshasa par un autre moyen si ce n'est que par l'avion. Donc j'ai pris CAA de Goma jusqu'ici.
Qui seul les mettre aujourd'hui dans les airs congolais sur les grands axes, disons.
C'est pratiquement l'exclusivité qui lui est réservée. À Goma, il n'y a pas de compagnie. Quand on ne peut pas attraper, pour les humanitaires, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a des vols MONUSCO, il y a des vols de UNA, SPAM, il y a aussi des vols du CICR ou alors de EcoFlight. Mais pour tous les restes, il y a que CAA. Alors, imaginez ce que ça signifie. Déjà, même maintenant, j'ai appelé pour réserver mon retour. On me dit qu'il n'y a pas de la place pour dimanche. Donc, c'est les monopoles.
Nous avons même appris que les prix du billet a augmenté pendant tout ce temps-là.
Ben oui.
Il y a combien Goma Kinshasa aujourd'hui?
Vous casquez ce qu'il vous faut pour aller peut-être en Europe. C'est $685 en aller-retour et $355 en aller simple. C'est pas facile. Donc, d'un coup, c'est plus donné à tout le monde.
Bon, revenons un peu à cet appel. Tout le monde veut voir une compagnie congolaise être mise sur pied. Et vous avez entendu là aussi le directeur général à l'intérim des lignes aériennes congolaises qui se plaint le renouvellement de son certificat de navigabilité bloqué au niveau de l'autorité de l'aviation civile. Le même souci du côté de Korongo, c'est un projet qui pouvait aussi apporter un supplétif dans le besoin du transport aérien en RDC.
tout est bloqué. Et vous, en tant que Congolais, que diriez-vous?
Non, je pense que les autorités vont suivre cette émission. Sinon, il faudra leur faire des copies et leur envoyer ça. Qu'ils suivent ça chez eux, et même dans leur bureau. C'est quand même honteux qu'on apprenne aujourd'hui que les lignes aériennes congolaises ont un Boeing 737 en très bon état qui reste cloué au sol faute de documents et de moyens. Donc, il n'y a pas de fonds de roulement. C'est ridicule. Simplement ridicule.
C'est une compagnie nationale.
Et nous avons un ministère des transports dans ce pays. Nous avons un ministère des finances et des budgets. On devait budgétiser l'exploitation de cet avion. C'est l'unique avion. Imaginez que nous devons nous bousculer avec nos ministres dans des avions qui sont pleins et des fois ils sont aussi débarqués. Et nous avons un avion qui traîne. C'est simplement révoltant. Quand je vois combien de pays nous entourent ont des compagnies nationales qui fonctionnent, alors que ces pays-là ne nous égalent pas et ne devraient même pas nous égaler, nous nous sentons frustrés quand nous voyageons. Sincèrement. Parce qu'en attendant que les routes se construisent, nous sommes obligés de prendre l'avion entre Lubumbashi et Kinshasa, entre Goma et Kinshasa, entre Kinshasa et Lubumbashi, disons entre Goma et Lubumbashi, Kisangani. On ne peut pas faire autrement. On a comme l'impression que ce secteur est pris en otage par certains privés. Et ce sont toujours les mêmes qui, eux, quand ils ont besoin d'une autorisation, c'est vite fait.
Oui. Okapi Airlines, tout de suite venu, tout de suite autorisé, et va commencer à exploiter.
J'ai vu aussi Stellar, que j'ai vu sur l'avenue du Flambeau. Donc, eux vont commencer. Mais la compagnie nationale, soyons nationalistes. Si le Rwanda peut se permettre d'avoir des Boeing, sincèrement, le Congo devrait avoir 10 fois la flotte du Rwanda.
Vous avez une radio d'hommes et de femmes d'affaires qui émet dans le Nord Kivu. Bon, vous pouvez aussi avoir le pouvoir de dire quelque chose à l'endroit de l'autorité de l'aviation civile. Vous avez entendu Korongo se plaindre. L'autorisation doit venir de l'autorité de l'aviation civile. Et là, ils se plaignent aussi. Mais nous avons posé la question à l'autorité de l'aviation civile. Mais en tout cas, c'est le silence radio. On ne peut pas parler. Même au ministère de transport, on nous dit que le problème n'est pas à leur niveau. Le problème se trouverait au niveau de la présidence de la République. Donc, comme vous l'avez dit, il y a une certaine personne. Il y a une caste qui prend en otage toute une république et ne peut accorder des autorisations qu'à ceux qu'ils veulent.
Daniel, je pense que dans ce pays, il faudra qu'on arrête de dire à chaque fois il faut aller à la présidence de la République. Dans le dernier point de presse du président, il y a un journaliste qui lui a posé des questions en disant, mais monsieur le président, on a dit que les dossiers sont bloqués chez vous à la présidence. Ouais. Mais finalement, est-ce qu'on a deux gouvernements dans ce pays? Le gouvernement géré par Mouzito et un gouvernement géré par le président et son cabinet à la présidence? Je ne pense pas. Donc je pense qu'il faudrait qu'on arrête. S'il y a des incompétents qui ne sont pas à leur place, qu'on les dégage. Qu'on mette des gens qui sont capables de voir l'intérêt de la nation. Nous avons besoin d'une compagnie nationale. Ça fait partie de la fierté. Écoutez, j'ai pris une fois Rwandair entre Kigali et Nairobi. Je me sentais tout petit dans mes souliers dans cet avion-là. Et aujourd'hui, il y a des privés qui nous prennent en otage, qui remontent les prix quand ils veulent, qui réduisent la franchise quand ils veulent, qui refusent de vous rembourser quand vous décidez de ne plus voyager, qui vous retiennent de l'argent quand vous avez changé votre date de voyage. Tout ça, c'est parce que nous n'avons pas une compagnie nationale au service du peuple congolais.
Panorama économique, matière première.
La RDC et particulièrement la ville de Kinshasa vit depuis quelque temps un boom immobilier. Cela nécessite du matériel de construction suffisant. Ça et là, des investisseurs s'intéressent à la production et à la fourniture de ces matériaux de construction. Mais qu'en est-il de la sidérurgie de Maluku, l'usine nationale de fabrication et de commercialisation de l'acier et Sosider? Notre reporter s'est rendu sur place. Suivez son reportage.
Nazana Ban. En plus, dans un cadre universitaire, on a 30 000 francs à tailler mon papa Langa.
Cette jeune dame est comptable à la sidérurgie des Maluku. Nous l'avons trouvée en train d'élaborer le sol dans l'enceinte de l'usine pour y cultiver les arachides. Pour elle, le travail des champs est sa source de survie.
Avant de dire à Maluku, papa, quand il m'a dit à Nakin de ville, il faut que je 5 000 francs. Je suis en train de battre au Vanda, je suis en train de battre au Vanda. Pas si papa, donc tu y as qu'à rosser la langue, tu y as rendu à rosser la musala na, ils y nous abusent aux hommes, tu as rendu rosser la musala.
Sur les quelques 300 agents de l'entreprise, seule une trentaine vient régulièrement à l'usine, mais pas pour y travailler. La plupart viennent faire du champ. pour nourrir leur foyer, car ils sont impayés. D'après la délégation syndicale de l'usine, l'entreprise doit au personnel plus de 80 mois d'arriéré des salaires. Les seuls frais qui touchent le personnel de la sidérurgie de Maluku, bien entendu de façon irrégulière, ce sont les indemnités de transport qui varient entre 10 000 et 50 000 francs congolais sur les 26 jours, selon les grades de chaque agent. Pour le moment, la sociedaire est à l'arrêt, faute de financement. Techniquement, l'entreprise a encore de l'équipement. Les laminoirs à chaud de l'usine est encore opérationnel et peut produire jusqu'à 100 000 tonnes de barres de fer par an. Mais les matières premières et la motivation des travailleurs font défaut. Et pour la plupart des agents de la sociedaire, les contrats de concession avec la société américaine Global ITSM, qui devait intervenir au mois de mars passé, étaient la solution pour la relance des activités de l'entreprise. Mais depuis, tout est bloqué. La délégation syndicale, elle, pointe du doigt à la direction générale de l'entreprise et certains ministères.
Si le contrat avec la firme américaine traîne, c'est tout simplement un manque de volonté de la part des décideurs. Arrivé le jour de la signature, ce sont les ministres qui refusent de se présenter dans la salle pour les 5 chantiers, les routes, les stades, les immeubles que vous voyez ici. On fabrique avec le fer à béton qui vient de l'Inde, de l'Afrique du Sud, de Liban, de la Chine. Mais si vous le faites à Maluku, ici, à 80 km.
Selon les directeurs généraux de l'entreprise, l'État doit à la sidérurgie de Maluku près des 80 millions de dollars américains. Et la relance des activités de l'usine nécessite, selon la même source, au moins 15 millions de dollars américains.
Voilà, la transformation des entreprises. De même, il fallait relancer, on le disait tantôt, relancer la compagnie nationale d'aviation, la sidérurgie de Maluku qui pouvait servir, qui pouvait donner de la matière première à la reconstruction, et j'étais en arrière-plan, M. Thomas.
Il y a quelques années, si ma mémoire est bonne, j'ai vu la... C'est quoi les fonds de promotion de l'industrie,
le FPI
qui avait financé un projet d'un particulier ici à Kinshasa et qui produit déjà des fers à béton. Comment expliquer qu'aujourd'hui ce même fonds ne soit pas capable de financer la relance de la sidérurgie de Maluku? Moi, je pense que dans ce pays, nous ne nous aimons pas. Nous n'aimons pas notre pays. Nous avons tout un ministère consacré à cela,
à l'industrie.
Mais comment expliquer que l'on néglige tout ce qui appartient à l'État et l'on favorise ce qui appartient à des particuliers?
Parce qu'on a des intérêts dedans, carrément, on peut le dire.
Ben bon, c'est beaucoup plus facile de savoir qu'on peut attraper un 5-10%. Vous savez, des fois, on apprend qu'avant de signer, on te demande...
Et moi
là-dedans, c'est dans tout ça, et moi, je me retrouve où? Donc, si pour relancer la sidérurgie de Maluku, on n'a pas un interlocuteur en face qui nous garantisse des dessous des tables, j'ai comme l'impression que ça ne marche pas. Et là, c'est la responsabilité du gouvernement de prendre les choses à main. Ça demande combien? Des milliards? Je ne pense pas. Pour relancer la sidérurgie de Maluku, quand je vois combien les Ougandais et les Kenyans viennent ramasser toute la ferraille qui traîne à Goma et à Bukavu, et qui nous revient à Goma sous forme de fer à béton, je me demande combien, j'ai même vu ici à Kinshasa,
oui,
des Indiens qui ont commencé à ramasser toute la ferraille, qui l'ont ramené jusqu'à Matadi, à Boma, et l'ont exporté. Vous imaginez ce que ça signifie?
Et au retour, on achète 5 fois plus qu'on l'a livré.
Voilà. Et j'ai vu une fois, je ne sais pas, il faudrait que j'aille encore vérifier, du côté de Kinshasa Niasuka, il y avait tout un dépotoir de ferraille.
Ça n'existe plus.
Enfin, finalement, la sidérurgie de Maluku n'allait même pas manquer de la matière première ici, à Kinshasa. Tous ces vieux véhicules qui traînent ici, ces châssis-là, pouvaient être recyclés. Donc finalement, c'est un problème de manque de volonté politique.
Terminons, M. Thomas, par la Virunga Business Radio que vous dirigez. Parlez-nous-en en une, deux minutes.
Bon, Virunga Business Radio, VBR FM, c'est une initiative privée. Une radio que nous avons créée pour servir la population de Goma, surtout les hommes d'affaires, mais aussi pour essayer de mettre les traits d'union entre les populations de la région des Grands Lacs, le Rwanda, le Congo, le Burundi, pour essayer de remettre les gens à cohabiter pacifiquement ensemble quand on sait d'où l'on vient, des guerres qui sont venues de là.
Et vous avez dit radio d'hommes et de femmes d'affaires.
Oui, les hommes et les femmes d'affaires, parce qu'à Goma, dans chaque maison, on vend quelque chose. Vous savez, à Goma, c'est une ville où, à un moment donné, je me dis, mais qui va acheter chez qui? Parce que tout le monde vend quelque chose.
Oui.
Je me suis retrouvé un matin chez moi, il y avait des trucs à vendre dans mon congélateur. Je me dis, mais c'est quoi ça? Non, c'est la fille qui récupère l'eau la nuit qui congèle, ça devient des blocs de glace, et le matin, il y a les vendeurs de sucré qui viennent acheter. Ben, j'ai dit, ben... Alors finalement, on a créé une radio pour démystifier aussi la radio, pour permettre à tout le monde, il n'y a pas que les grandes sociétés de télécommunications qui peuvent faire la pub, mais aussi les mamans vendeuses de beignets peuvent le faire, les vendeurs des cannes à sucre peuvent le faire, les petits revendeurs des cartes de télécommunications peuvent faire la pub. Finalement, on a fait une radio de proximité qui participe et qui contribue à la croissance des affaires dans le Nord Kivu, et je suis très heureux de participer à cette émission qui parle d'économie. C'est mon rêve de voir les gens évoluer, commencer au tout petit, de 1 et remonter progressivement, mais dans l'honnêteté, dans une éthique correcte, parce qu'on est dans ce pays habitué à la magouille, à la tricherie, au vol, à la corruption, et je me dis que nous prêchons la différence. Voilà un peu le rôle de Vivière FM.
Vous aussi faites comme M. Thomas Kubuya, directeur de la Virunga Business Radio. C'est une radio, je le dis tout au long de cette émission, qui émet depuis la ville de Goma dans le Nord Kivu. Vous aussi faites comme M. Thomas, passez à Kinshasa, contactez Panorama Économique, Écho d'Économie au 081 890 63 73, et nous serons très heureux de vous recevoir. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci Jocelyne.
Merci Daniel.
Merci aussi à Paulin Moukéou qui a réalisé cette émission. Merci surtout à vous, Thomas.
Merci Daniel. Et je rappelle que tous ceux qui passent à Goma peuvent aussi suivre notre radio sur 98.5 dans la bande FM.
Et tout le plaisir est pour nous de vous retrouver lundi 18h15 heure de Kinshasa dans Écho d'Économie. En attendant, très bonne suite de programmes sur Radio Okapi.